Les grandes voix d'Europe 1. Sébastien Guyot.
La semaine dernière, dans ce même studio, Gérard Carrérou, vous prédisiez que les raids israéliens ne répondraient plus aux requêtes palestiniennes très rapidement. C'est une question de semaine, aviez-vous dit. Nous sommes une semaine après. Et le ciel israélien et le ciel palestinien ne s'embrassent plus. On peut s'en réjouir, mais il y a tout de même eu 260 morts, dont 67
donc
enfants,
rien n'est
essentiellement
réglé.
Palestiniens. Et en effet, rien n'est réglé sur le fond. Désormais, malgré l'intervention de Joe Biden qui s'est félicité, écoutez-le.
Je pense que les Palestiniens et les Israéliens méritent tout autant de vivre en sécurité et de jouir d'un même niveau de liberté, de prospérité et de démocratie. Mon administration poursuivra sa diplomatie discrète et infatigable pour atteindre cet objectif. Je crois que nous avons une réelle opportunité d'avancer et je m'engage à travailler dans ce sens.
Nous avions évoqué ensemble le rôle des États-Unis dans la résolution de ce conflit, pas une priorité au départ, c'était l'Iran bien entendu, des blocages au Conseil de sécurité. Finalement, les États-Unis sont toujours incontournables dans la région, avec l'Égypte bien sûr.
Oui, mais ils sont, en d'autres temps, ils seraient intervenus fortement. Oui. Là, on peut dire qu'ils ont fait le service minimum. Pourquoi ont-ils fait le service minimum? Et ça, on l'avait dit aussi la semaine dernière, les uns et les autres. Parce qu'effectivement, ils estiment, ils ont toujours une solidarité active avec Israël. Mais ils estiment qu'Israël est assez grand maintenant pour à peu près se défendre avec les moyens d'ailleurs que les Américains continuent de leur donner sur le plan militaire, mais les moyens technologiques mis au point par les Israéliens eux-mêmes, et qu'effectivement, il n'est plus nécessaire d'avoir véritablement une intervention directe. On a sous-traité par exemple avec les Égyptiens. Les Égyptiens qui sont à la fois les amis d'Israël maintenant et les amis de l'Amérique, eh ben, ils ont joué le go-between et c'est avec eux qu'on a fait le cessez-le-feu. Donc les Américains ne se mêlent plus directement. C'est ça la grande différence avec ce qui se passait il y a 10 ou 15 ans.
Et même avec Trump.
Oui,
avec Trump, ça allait même plus rapidement et c'était beaucoup plus... Il y avait une alliance effective, permanente, notamment avec, entre le gendre de Trump et Netanyahou.
Oui, mais Trump a vraiment craqué une première allumette en décidant que de transférer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, ce qui voulait dire que Jérusalem devenait une capitale non partagée.
Elle n'y est toujours pas encore.
Mais ça voulait dire pour les Palestiniens que Jérusalem devenait la capitale d'Israël et que ça les excluait de Jérusalem-Est, où est la mosquée Al-Aqsa. Donc, c'est vraiment quelque chose, c'était une provocation de décider ça tout seul, sans contrepartie d'une négociation avec les Palestiniens. Bon, et la grande force a été les accords Abraham, où certains pays, évidemment, comme les Émirats Arabes Unis, le Maroc, Bahreïn,
le Soudan, se sont
désolidarisés de la cause palestinienne, parce qu'aussi, peut-être, ils pensent que c'est une solution qui n'en a pas.
Et est-ce que ça peut être remis en cause par les violences de la semaine dernière?
Mais non, ce qui est remis en cause aujourd'hui, c'est que cette crise, ou par imbécile, où la police a empêché en plein Ramadan les Palestiniens de venir à l'esplanade des mosquées et de venir prier, tout ça, ça a déclenché les réactions du Hamas. Mais surtout, ça a déclenché à l'intérieur, et ça c'est très grave parce que c'est la première fois que ça se produit, une véritable confrontation entre les Israéliens arabes et les Israéliens juifs, dans des villes dites mixtes. Et là, il y a une haine qui est passée et qui n'est pas terminée et qui va créer de gros dégâts.
Je voulais simplement passer des deux hommes, au fond, de Biden, du cas Biden et du cas Netanyahou. On se dit qui a gagné, qui a perdu dans cette affaire. Le Hamas considère qu'il a gagné parce qu'il a existé, parce qu'il a représenté la cause palestinienne.
Il envoie 4000 roquettes.
Netanyahou considère qu'il a gagné.
Il est le grand vainqueur.
Mais du point de vue de Biden, on dit que sa diplomatie a été quand même assez absente. Mais il n'est intervenu finalement que lorsque les forces israéliennes avaient complètement détruit leur cible sur la bande de Gaza. Donc il a quand même, quelque part, attendu la fin pour décider qu'il ne déciderait pas. Alors, je comprends son problème. Et par rapport à Trump, c'est vrai que c'est difficile. Mais c'est vrai aussi qu'il ne serait peut-être pas intervenu, même là, s'il n'y avait pas eu une gauche démocrate pour une première fois hostile. Et puis, l'autre homme dont il faut parler quand même, c'est Netanyahou. On pouvait penser que ça lui donnait cette semi-victoire d'Israël, donc lui donnerait plus d'importance dans un moment où il est très critiqué. Or, c'est peut-être le contraire, parce qu'au fond, on s'aperçoit que personne ne voulait tellement de cette offensive. Dieu merci, elle n'a pas été terrestre. Mais personne en Israël, en dehors de l'extrême droite, ne voulait un tel. Donc, au fond, là maintenant, l'extrême droite lui reproche d'être intervenu sur le conflit, et la gauche dit qu'il n'aurait pas dû aller au conflit.
Charles Villeneuve, Benjamin Netanyahu n'est pas le vainqueur de cette guerre éclair.
Non, mais si vous voulez, il y a un vainqueur relatif, il y a deux vainqueurs relatifs. Il y a le Hamas et Netanyahu qui a été remis en selle dans cette affaire, puisqu'il a perdu en quelque sorte les législatives. Il n'a pas été capable de constituer une majorité. Bon, mais là, il est remis en selle et il peut y avoir, de toute façon, si vous voulez, à nouveau, cette remise en selle peut déboucher sur une nouvelle élection
législative anticipée. Cinquième en quelques
mais
mois.
Le Hamas, en franchissant la ligne rouge, en tirant, si vous voulez, des roquettes, des missiles, au-delà, si vous voulez, de Jérusalem-Est, savait pertinemment qu'il allait provoquer un déluge de feu de l'armée israélienne. Il le savait d'autant plus pertinemment qu'il y aurait beaucoup de victimes, mais notamment des enfants, dont vous avez cité le chiffre,
66. Oui.
C'est ce qu'on appelle la dissuasion du faible au fort. Parce que, en déclenchant ce déluge, savait pertinemment que la réplique allait être très forte. Et dans les pays arabes, les commanditaires du Hamas, c'est-à-dire l'Iran, la Turquie et son financier aussi, le Qatar, bien évidemment, il a remporté pour eux, en tout cas, la victoire. Il est devenu l'interlocuteur palestinien valable au détriment de l'autorité palestinienne.
Il y a débat, je sais que vous voulez tous répondre, Catherine, mais ce sera juste Gérard Carrérou. Je vous promets, je vous donne la parole dans un tout petit instant. À tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1. 10h, 11h. Sébastien Guyot.
Avec ce deuxième débat consacré au conflit israélo-palestinien et cette déclaration de Joe Biden, Gérard Carrérou, hier soir, qui se félicite bien sûr du cessez-le-feu, mais qui dit que la seule solution pour régler le problème, puisqu'on disait que rien n'était réglé, c'était deux États côte à côte, Israël-Palestine.
Oui, mais ça, c'est une déclaration pour l'instant qui ne débouche sur rien. Ce qui est important, on a souligné, et je partage ce qui a été dit sur la victoire du Hamas d'une certaine manière, et celle de Netanyahou par Charles, qui se remet en selle. Ce qui, par contre, est très inquiétant. Pour l'instant, ça se terminera vite, ça va se terminer, ça s'est terminé, mais ça peut reprendre dans
le temps. Mais c'est fragile, il y a quand même des
c'est
heures,
extrêmement
en effet,
fragile.
À Jérusalem
pourquoi
Est, tous les
Parce
jours,
qu'il y a
en Jordanie
eu un
aussi.
Fait qui est un fait à la fois politique, sociologique, humain, qui est l'irruption pour la première fois des Arabes qui vivent en Israël, Catherine l'a esquissé, ça modifie complètement la donne, ça.
20% ça, dans la
alors,
dans
on
les
avait dit,
mixtes,
moi j'ai parlé, suite, pendant la semaine, j'en ai profité pour parler avec un certain nombre d'amis que j'ai, qui sont des hommes d'affaires israéliens qui vont en permanence, qui vivent entre Paris et Jérusalem ou Tel Aviv. Ils pensaient, le sentiment dominant, disons, de la classe, des intellectuels de la classe moyenne, c'était que peu à peu, les Arabes qui sont en Israël, leur niveau de vie s'étant élevé, ils se développeraient un peu comme en Amérique avec les Noirs, une sorte de bourgeoisie moyenne et palestinienne.
Elle existe,
mais pas suffisamment ce point. Ce qui fait que les idées dues à la contagion du Hamas a gagné non seulement les territoires effectivement occupés, mais elle a gagné aussi ces Arabes-là. Et disons que les jeunes Arabes, parce que c'est aussi un problème de génération.
Les jeunes Arabes israéliens.
Comme c'est un problème, je dirais sans faire de parallèle, mais comme c'est un problème ici pour l'intégration, les jeunes Arabes sont plus remontés. Donc il y a eu une double radicalisation.
Alors, Gérard, vous parlez. Bourgault va laisser ses femmes s'exprimer, s'il vous plaît.
Oui,
Michel
Cotta, les femmes s'exprimer.
Oui, oui. Surtout quand même, quand, sur la décolonisation. Il n'a rien été fait, parce qu'on a dit les deux États palestiniens, ils étaient prévus quand même par la résolution, par la première résolution de l'ONU.
Palestiniens,
bon, ils étaient prévus. Or, c'est Israël qui s'y est opposé, et vous vous rappelez quand même les accords qui avaient permis à un moment donné de penser qu'il y aurait deux États séparés, mais quand même...
Les accords d'Oslo en 1993.
Là-dessus, les accords d'Oslo qui ont fait...
Et Arafat.
Rabin Arafat. Qui
a créé une espérance
Rabin
formidable.
Rabin a été assassiné.
Il faut voir la haine accumulée du côté palestinien à l'idée que ces accords n'aient pas été réalisés et que finalement il y ait tout compte fait deux poids deux mesures. C'est toujours très différent, très difficile de parler dès qu'on parle d'Israël, mais enfin il y a deux poids deux mesures. Effectivement, la décolonisation, la recolonisation par les Israéliens, il n'y a pas eu de coup d'arrêt. Et là, Catherine a raison de souligner que tout de même, le jour de la fin du Ramadan, on n'est pas obligé d'aller sur les mosquées.
Mais c'est la première erreur. Michel,
alors après, on a raison de dire.
Arafat avait fait une lourde erreur.
Et puis l'expropriation.
Je me souviens de l'avoir interviewé plusieurs fois pour Europe. Arafat, il n'a pas compris qu'il était arrivé à un moment où il pouvait faire l'État palestinien. Il a maintenu une forme d'intransigeance et depuis cette minute-là, il en est mort.
La grande question, Catherine, est de savoir en effet si...
C'était fini l'histoire des deux États à ce moment-là, pendant 30 ans. Et on est au bout maintenant de 25 ans.
Non mais ce qui est terrible pour les Palestiniens, c'est que dans le fond, Mahmoud Abbas, qui était censé gouverner la Cisjordanie et Gaza, n'a plus aucun pouvoir et il est trop... Et en tout cas, dans la bande de Gaza, on le trouve trop mou avec Israël. Mais là, ce qui est nouveau... C'est la force de frappe soudaine du Hamas, qui est quand même un mouvement terroriste, reconnu comme terroriste, qui veut détruire Israël par sa force de frappe. Et tout d'un coup, c'est une victoire militaire. Et les Palestiniens, les sujets...
Non, c'est une victoire militaire très relative.
Mais très relative, mais pour les Arabes
un mot
israéliens,
devant le micro,
c'est une
ma chère
victoire
Catherine.
Militaire.
Et un mot de conclusion de Charles Villeneuve sur ce sujet.
Oui, mais le fait le plus important, c'est ce qu'a souligné Gérard.
C'est un prestige militaire.
C'est-à-dire les jeunes Arabes israéliens qui se sont palestinisés.
Et c'est le
fait qu'en réalité s'amorce une cohabitation impossible dans les 15 à 20 petites villes, notamment petites villes ou villes moyennes, qui sont entre Jérusalem, Lod et Tel Aviv. Et le fait d'avoir frappé Lod et Tel Aviv est un pas qui a été franchi, qui marque cette incompatibilité. Et donc l'avenir, si vous voulez, et c'est en cela que Netanyahou a une lourde responsabilité, c'est qu'il faut qu'il tienne compte de ce fait politique énorme.
Et la loi du nombre ne peut être niée.
Merci les grandes voix, on va passer à un tout autre sujet, tout aussi passionnel dans un instant. Le retour, dans un autre style bien entendu, le retour de Benzema en équipe de France, ainsi que le clip des Bleus signé du rappeur Youssoupha qui déclenche une passe d'armes entre le RN et le gouvernement. A tout de suite.